Osmose Radio.
La web radio.
Vous êtes parfois mort de fatigue à cause du Mistral qui vous harcèle. Vous êtes parfois mort de chaleur à cause du soleil qui vous tanne. Vous êtes parfois mort d'ennui à cause de tous ces festivaliers qui sont dans vos pattes quand vous allez d'un point A à un point B, c'est-à-dire de chez vous à la salle où vous allez voir un spectacle. Et qui sait, peut-être que cette salle de spectacle, c'est le théâtre du Verbe Fou qui se trouve rue des Infirmières et dans lequel on peut retrouver un spectacle qui part de la mort, là aussi. La mort dans tous ses états, avec une petite nuance qu'on expliquera tout à l'heure. La mort dans tous ses états que vous avez un petit peu expérimenté au cours de votre journée fastidieuse, cher petit festivalier qui écoutez Osmose Radio aujourd'hui. La mort dans tous ses états qu'on trouve au Théâtre du Verbe Fou, disais-je, à 19h45 jusqu'au 25 juillet, soit jusqu'à la fin de cette semaine et pour laquelle je reçois Louis et Cyril. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous venez d'un endroit qui s'appelle Valangin, que je ne connaissais pas du tout, et pour cause, puisque c'est hors des frontières de votre bon vieil hexagone. Des étrangers, oh con. C'est où Valangin en fait?
Alors Valangin, c'est juste en dessus de Neuchâtel,
d'accord.
Une ville au bord d'un lac qui porte le même nom que Neuchâtel.
Mmh.
Et c'est une ville, alors un petit village, hein, il y a 520 habitants je crois, donc c'est pas très grand, avec un très beau château qui était une grande royauté mais qui maintenant a fusionné avec Neuchâtel, donc elle a perdu un peu de sa superbe. Et c'est aussi là où on exécutait les condamnés à mort, sur la place du Gibet.
Dans le canton de Neuchâtel, en l'occurrence. Voilà.
Oh, dans le... Exactement.
Bah, c'est marrant parce qu'un peu plus au sud de Neuchâtel, il y a un endroit qui s'appelle Concise, où il y a un très joli château aussi. Et je me suis toujours demandé, le sourire relève, si on appelait le seigneur du lieu Sire Concise. Mais bon, ça, c'est un jeu de mots personnel. Ça n'a rien à voir avec votre sujet. Votre sujet qui est la mort dans tous ses états. Alors, quand on pense à cette expression, on pense à quelque chose, quelqu'un qui est dans tous ses états. Avec le suffixe possessif, donc avec un S-E-S. Et là, vous l'avez bien orthographié, et c'est là qu'est la nuance, la mort dans tous ces états, C-E-S. Mais qui sont ces états? Que sont ces états que vous désignez ainsi?
C'est les états qu'on désigne ainsi, c'est des états en fait, qui sont actuels dans le monde, en fait, comme les États-Unis, on a la Chine, en fait. Après, c'est vraiment les états, en fait.
Les états dans lesquels on habite.
Qu'on habite, où il y a voilà, où des habitants qui sont encore. Soit.
Qui éventuellement pourraient être soumis à la peine de mort.
Soumis à la peine de mort, mais aussi, bien pour des crimes non violents, ce qui est très important.
Puisque c'est votre thème.
C'est notre
thème,
justement, oui, voilà.
Alors, un spectacle que vous avez créé de façon collective, c'est une création collective entre 6 comédiens qui interviennent tour à tour sur scène au cours de 9 tableaux. Vous aurez l'occasion d'y revenir et ça s'appelle la compagnie Kipik, K-I-P-I-K. Alors, un palindrome. Écoutez, je vous félicite, messieurs, puisque ici, on est dans le Vaucluse à Avignon. On est palindrome, hein? On se renseigne un peu sur la géographie française, non mais alors?
Alors, ils n'ont pas qu'à, alors.
Et donc, dans la Drôme, vous êtes forcément passé en descendant chez nous, la compagnie qui pique. Alors, pourquoi ce nom pour la compagnie? Parce qu'en fait, vous abordez des sujets qui piquent un peu, c'est vrai.
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez bien dit, hein, palindrome, c'est très facile, c'est très court, on s'en souvient. Et puis, c'est vrai qu'on fait du théâtre documentaire, donc on pique un petit peu, mais quand même avec légèreté. Et puis en s'amusant aussi.
Théâtre documentaire, vous résumez un petit peu votre démarche par rapport à ce thème qui n'est vraiment pas facile et c'est assez audacieux de votre part de le faire parce que c'est un thème qui pourrait faire fuir le public. En été, on a envie peut-être de choses un peu plus légères, ce qui ne signifie pas que la programmation du festival off soit unique, totalement délurée. Mais c'est vrai que dans la mesure où vous proposez des éléments de réflexion sur un thème auquel la plupart des gens n'aiment pas penser, que pour des raisons politiques ou pour des raisons personnelles, eh bien, c'est vrai que c'est un sacré défi, un défi que le théâtre, le Verbe Fou, vous a aimé. Et vous a aidé justement à relever, puisque c'est une création, une coproduction en fait, entre votre compagnie en Suisse, la compagnie qui pique, et le théâtre du Verbe Fou, le théâtre littéraire en France. Comment s'est faite la rencontre?
La rencontre s'est faite en fait par email, parce que nous avons tout fait avec Ludivine, des recherches en fait de plusieurs théâtres.
Ludivine qui coordonne un petit peu la compagnie, si je comprends bien.
Tout à fait.
Tout à fait, qui est aussi metteur en scène. Et également donc pour cette pièce-là.
D'accord.
Et on a envoyé le dossier en fait de cette pièce à plusieurs théâtres qu'on avait repérés, comme je le disais, par internet, des petits théâtres en fait, je veux dire pas plus d'une cinquantaine de places.
Mmh.
Et Fabienne Govertz en fait a bien aimé notre dossier, nous a répondu de suite, on a échangé des mails pendant peu plus d'une année. Et puis, bah, on est arrivé chez elle cette année. Puis c'est comme ça qu'on l'a connue. On ne s'était jamais vu de visu avant qu'on arrive le 8 juillet. On est arrivé un jour avant. Puis le reste de l'équipe est arrivé le 9 juillet.
Donc vous vous connaissez sans vous
connaître, quoi. On se connaît, voilà, tout à fait. C'est qu'on a eu quelques zooms aussi, d'échanges, mais c'est vrai que ce n'est pas pareil
que
se voir en chair et en os, tout à fait.
Et alors, un soutien qui était le bienvenu en l'occurrence, puisque si vous venez de Neuchâtel, vous ne faites pas partie de la sélection suisse en Avignon, comme on appelle la sélection helvétique qui se produit avec le soutien institutionnel chaque année. Enfin, vous n'en faites pas encore partie, du moins, avec la compagnie Kipik. Alors, donc, cette coproduction, Le Verbe Fou, aurait dû être présentée l'an dernier, évidemment, comme tout le monde, vous avez été très embêté par le Covid, et mieux vaut tard que jamais, vous la présentez en 2021. Alors, faisons, pour commencer très très rapidement, un petit état des lieux dans nos deux pays respectifs, chers amis, puisque nous, en France, cette année 2021 est un petit peu particulière. On fête, enfin en tout cas, on réfléchit, on repense, on célèbre, ça dépend sa sensibilité politique aussi, ou l'âge qu'on a, eh bien, on pense à l'élection de François Mitterrand en 1981, qui a beaucoup compté pour la génération de mes parents, je ne le cache pas, et donc par ricochet pour moi aussi. Et 1981, bah, c'était beau parce que c'était l'abolition de la peine de mort, avec le travail d'un garçon comme l'avocat Badinter, et le choix politique de François Mitterrand de s'opposer à la volonté populaire. Et chez nous, en France, ben, l'abolition de la peine de mort, ça a été le fait du prince. Vous, en Suisse, vous avez une tradition démocratique qui rend les choses assez différentes, mais aussi plus complexes, j'ai l'impression, parce que la peine de mort a connu une histoire assez mouvementée chez vous. En 1974, déjà, elle a été abolie une première fois. Donc, largement avant nous.
Oui, tout à fait. Après, en Suisse, bah, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, il faut rappeler qu'on a des lois cantonales, c'est une confédération, donc c'est un peu comme en Belgique, c'est très compliqué, parce que tout le monde peut donner son avis et la démocratie fonctionne plus ou moins, mais est très très lente. Et ce qui fait que je pense qu'il y a eu pas mal de pouvoir cantonal jusqu'à assez tard, jusqu'à qu'à un moment donné, quand même l'idée, en général en Occident, il n'y a plus de pays en Occident, en tout cas il n'y a plus que la Biélorussie, je crois, encore en Europe, qui applique la peine de mort. Mm-hmm. Mais où ça, je pense, la France a aussi suivi, c'est qu'à un moment donné, ça devenait vraiment barbare de continuer à pratiquer la peine de mort. Donc, en Suisse, c'est on disait en 1946 qu'elle n'a plus été pratiquée, à part sous la loi militaire, qui a été, on a vu vérifier avant, en 1992, et qui a été totalement abolie, mais elle n'a plus été pratiquée depuis 1937, je crois, à Bâle, la dernière fois qu'on a exécuté un meurtrier. Est-ce que je réponds à la question ou je m'éloigne un peu?
Non, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que vous donnez des détails qui nous sont inconnus parce qu'on connaît très, très peu d'éléments de votre histoire. On a beaucoup plus de préjugés que de connaissances factuelles sur vous autres, sans vouloir vous offenser, mais c'est un fait. Et, et du coup, bah, c'est vrai que moi-même, j'ai appris pas mal de choses en préparant cette interview. Donc, il y a aussi un détail qui ne va peut-être pas vous plaire et qui ne me plaît pas à moi non plus, mais c'est une réalité factuelle. C'est qu'en 1874, la peine de mort a été abolie chez vous. C'était aussi l'époque où Henri Dunant créait la Croix-Rouge, donc ben, c'est une institution suisse pour laquelle tout le monde a beaucoup d'admiration. Et donc il y avait cet élan peut-être humaniste après la guerre du Sonderbund, tout ça, et la nation suisse qui se constituait dans la Confédération telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et en même temps, comme vous êtes un pays de tradition démocratique très ancienne, eh bien, la peine de mort a été rétablie par une votation populaire 5 ans plus tard, en 1879. Et ça, c'est vrai que ça fiche un petit coup au moral, puisque chez nous en France, c'est le feu du prince qui a aboli la peine de mort, et chez vous ça a été beaucoup plus compliqué, et notamment eh bien, c'est le peuple lui-même qui a rétabli la peine de mort, comme quoi c'est beaucoup plus subtil qu'on le croit, et c'est certainement pas manichéen comme thème, et vous faites fort justement de l'illustrer dans votre spectacle à partir des réflexions que vous a procuré un roman en particulier, un roman de Victor Hugo.
Oui.
Le dernier jour d'un condamné.
Si je peux juste me permettre, je crois qu'en France, elle a été abolie, donc, comme vous l'avez dit, en 1981, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui seraient assez pour...
Ah, mais je suis entièrement d'accord.
Oui, alors, voilà. Et c'est vrai qu'en Suisse...
C'est très triste, c'est pour ça que je dis, ça me fiche un coup au moral, oui.
Et en Suisse, on a quand même une tradition tout à fait démocratique, la Croix-Rouge, on a l'ONU qui est à Genève, mais bon, on a quand même voté contre les minarets, on a quand même voté pour toujours continuer à produire de l'armement. Donc les aberrations au niveau des votations populaires, on est d'accord avec vous que c'est assez... On a refusé 6 semaines de vacances quand même, alors ça c'est encore un autre sujet. Mais pour dire oui, il y a un très grand souci entre l'image de la Suisse et comment elle est manipulée, je me permets de dire ça, et comment les gens votent. Parce que comme partout, c'est la peur qui prédomine et les gens, par peur, choisissent toujours, pour moi en tout cas, le mauvais choix. Donc voilà, pardon, c'était juste pour...
Non mais même si vous êtes francophone, si vous êtes très proche culturellement, et si vous, votre modèle politique et social nous fascine, mais c'est vrai que parfois aussi, il y a des aberrations qui nous paraissent presque exotiques, pardonnez-moi pour le terme, mais en même temps, vous en avez autant à notre service, et finalement, les uns ne veulent pas mieux que les autres. Donc du coup, bah, c'est bien qu'on se rend compte à Avignon cette année, vous voyez, pour ce thème. Et donc, Le dernier jour d'un condamné, un roman de Victor Hugo sorti en 1829, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte en particulier, parce que c'est tout de même pas le seul à parler de la peine de mort.
Non, alors tout ça, vous avez raison. En fait, pour faire très vite la petite anecdote, c'est que ça fait maintenant à peu près 9 ans que je connais Ludivine, on s'était rencontrés sur une pièce de théâtre.
D'accord.
Le feeling a bien passé et puis on a continué à se voir hors la pièce de théâtre, on est devenus amis, puis un jour on a parlé qu'on voulait faire le festival à Avignon. Donc à la base, ça devait être 2020, hein, mm-hmm. Au vu de ce qui est arrivé, c'est 2021. Et on a fait des recherches de pièces. Et c'est vrai que nous sommes repartis dans les anciens, si on peut dire. La question de droit d'auteur, tout ça, voilà. C'est beaucoup plus facile. Et Ludivine a lu Le dernier jour d'un condamné. Et c'est vrai que Victor Hugo a fait une préface qui se moque de son roman. En fait, c'est une préface qui est faite par des bourgeois qui amènent le livre, en fait, au fur et à mesure de cette préface qui est faite en forme de dialogue.
D'accord.
Et elle est partie là-dessus en se disant cette préface n'a pas jamais été jouée. Enfin, après les recherches qu'on a faites. Après, évidemment, même dans toutes les recherches, on n'arrive pas à tout voir non plus. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais alors, on pourrait partir sur cette pièce, sur la préface. Et on s'est posé la question, vu qu'on voulait faire du documentaire, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire de cette préface? Et on est parti sur la thématique, justement, de la peine de mort. Et on a fait deux ans et demi de recherche. Et bout à bout, en fait, on était chercher des documentaires autant sur Internet, dans les livres. Ludivine a énormément lu. J'ai plus fait de recherches sur le net. On s'est partagé le travail.
Il faut lire beaucoup aussi. Hein.
Oui, mais justement, voilà, elle lit plus. Moi, je suis plus recherche Internet, mais il faut quand même les lire, hein, tout à fait.
De toute façon.
Et puis, bout à bout, en fait, on s'est rendu compte qu'on allait parler de ce sujet et en fait avec plusieurs scènes justement où on allait parler des bourreaux à l'époque, leur style de vie, en fait pourquoi les bourreaux, comment se formaient les dynasties de bourreaux. Après on voulait amener en fait des réponses pour que les gens repartent vraiment comme si c'était un documentaire. Donc on est parti sur une idée de jeu télévisé pour donner des informations parce que vu qu'on peut donner beaucoup d'informations avec ce sujet, on a déjà beaucoup réduit. Donc après, on a dû trouver des scènes, comment donner des informations en grande partie. Après, on est parti sur un débat. Et puis après, on parle quand même de Victor Hugo. Hein. On parle quand même de son œuvre, on parle quand même de sa vie. On a quand même une scène où on a un parcours de Victor Hugo, de sa naissance jusqu'à sa mort, avec des dates bien précises de ce qu'il a fait, ce qu'il a combattu, en fait.
Mm-hmm. Il en a eu des causes dans sa vie.
Il en a eu, entre
autres. De la peine de mort
à
la bataille d'Hernani en passant par la commune.
Parce que ça nous tenait à cœur par rapport à cette préface. On pourrait faire beaucoup de choses sur Victor Hugo. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs pièces. Hein. Et puis, on arrive justement à la fin avec, si je ne me trompe pas, c'est le dernier poème qu'il a écrit, en fait. Donc, on a jonglé entre Victor Hugo, des renseignements pris autant sur Internet, dans les livres avec Amnesty, sur le site d'Amnesty aussi international, tout à fait. Et on a monté bout à bout un spectacle complet, en fait.
Faire une petite synthèse de tous ces...
De tout
petite...
ça, c'est une synthèse. Oui, non, mais...
Synthèse de tous ces éléments, voilà.
Voilà, tout à fait, oui.
Et l'œuvre du Victor Hugo, c'est vrai qu'il était très militante au départ. Puis vous parlez de ce dernier poème, j'imagine que c'est tiré des Contemplations, où là, il est beaucoup plus serein, approchant lui-même de la mort, je suppose.
Oui, ça.
Voilà. Et cette œuvre de Victor Hugo a été l'élément fondateur, en tout cas le point de départ de votre travail, un travail de théâtre documentaire, comme vous l'avez dit vous-même, dans lequel on apprend des choses, hein, comme dans un documentaire. Et pour ma part, j'ai appris qu'effectivement, en Suisse, vous avez fait un petit peu comme tout le monde en Europe. Hein, les condamnations étaient souvent des décapitations à la hache. Alors, je ne sais pas si chez vous, c'était réservé à la noblesse. En tout cas, chez nous, ça l'était. Et puis pour le bas peuple, c'était les pendaisons. au chemin qui se croise. Hein, donc la vie n'est pas un long route tranquille, surtout quand elle se termine. Et donc j'ai appris ça et j'ai appris aussi que vous utilisiez la guillotine au 19e siècle. Et ça, j'ignorais totalement qu'on avait fait de la guillotine un élément d'exportation. Je savais qu'on en avait exporté dans les territoires français d'outre-mer. Je ne savais pas du tout que la Suisse l'avait adopté. Donc là, j'ai appris un truc bien joué, quoi.
Oui, une invention française qui fonctionne à merveille, hein, ce qui paraît.
Technologie française, mon gars.
Technologie française d'époque, mais non, mais parce qu'on a aussi, on se renseignait, on a vu que la guillotine, en fait, c'est plus l'homme qui tue, mais c'est la machine, et que c'était à un moment donné une invention humaniste parce qu'il n'y avait plus la responsabilité juste du bourreau de tuer quelqu'un, mais c'était une machine qui le faisait. Et effectivement, nous, on a aussi vu qu'il y en avait en Suisse. Alors, on allait voir un musée de la torture et de la peine de mort vers la région de Bâle.
Dites-moi aussi, ça m'intéresse.
Il faut lire. C'est un tout petit musée, mais alors, il a beaucoup d'objets. Bon, on en ressort de là.
De grandes frayeurs dans un petit musée, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Et il a une vraie guillotine qui a servi. C'était l'évêché de Bâle à l'époque qui utilisait cette guillotine, oui.
D'accord. Donc, c'est curieux. Un évêché qui utilise un élément révolutionnaire avec lequel on a raccourci énormément de religieux en France. Ça, c'est incroyable.
Oui, alors il y a des choses incroyables. Hein.
Je veux bien vous croire.
Mais je pense que le Vatican a un site internet, je suis jamais allé voir, mais non.
Il a aussi des archives assez phénoménales dans lesquelles j'aimerais bien aller fouiner pour ne rien vous cacher. Et donc ça, c'est un des éléments, je prends cet exemple-là parce qu'il est symptomatique, c'est un des éléments qu'on apprend dans votre spectacle, qui, je le répète, est le fruit du travail de 6 comédiens que vous incarnez tous. Alors vous êtes assez polyvalent, vous-même par exemple, Cyril, vous êtes, non, Louis aussi.
Louis.
Pardonnez-moi, j'ai confondu. Vous-même, Louis, vous êtes à la fois régisseur, technicien et aussi vous improvisez comédien avec vos collègues. C'est Ludivine qui s'occupe du travail de mise en scène. Et donc, Cyril, vous avez fait aussi des recherches avec elle. Et tout cela au cours de 9 tableaux qui sont organisés en fonction des thèmes successifs que vous explorez, je suppose.
Tout à fait, oui. Donc, alors, comme je vous disais, en fait, c'est 9 tableaux. Les décors partent avec des cubes qui vont évoluer au fur et à mesure des 9 tableaux. Et à la fin, on arrive avec 24 cubes sur la scène, plus 3 panneaux lumineux. Mais ça, Louis vous expliquera très bien la scénographie des panneaux lumineux.
Ils ont leur utilité à la mesure. Ils permettent d'afficher des images ou des vidéos qui permettent d'illustrer vos propos, je suppose, c'est ça?
Alors, ces cubes sont des cubes qui font 36 cm sur 36 cm, qui sont des cubes pouf. On peut appeler ça comme ça, donc ils s'ouvrent, on peut mettre des choses dedans. Alors le but, c'était de pouvoir construire des formes géométriques avec ces cubes. Il y a des noirs et des blancs pour jouer un peu toujours sur, comme on affiche le damier d'un jeu d'échecs.
D'accord.
Et le but aussi de ces cubes, c'était de cacher des objets. Alors il y en a un où il y a un panneau lumineux, où on affiche des dates, comme le panneau de l'Olympia, où on affiche des informations. Et le reste de la scène est fait avec 3 tableaux lumineux de 2,20 m sur 53 cm. Qui sont des panneaux lumineux que j'ai récupérés gratuitement et que je me suis dit... Ah,
c'est tombé d'un camion discrètement.
C'est tombé d'un camion discrètement d'un magasin qui avait fait faillite et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc je me suis dit, je pourrais les équiper avec des béquilles à roulettes et utiliser ça comme des panneaux qu'on utilise en fixant des dates dessus rétroéclairées. On affiche aussi des choses dessus. Bah, j'ai fait deux barres aimantées sur les côtés pour pouvoir mettre des choses dessus. Et tout est basé là-dessus, et une fausse caméra qui est en fait une poursuite lumière, donc une découpe lumière avec qui on joue comme caméra, elle utilise à éclairer, et j'ai mis quelques petits pares dessus aussi pour pouvoir éclairer. Le but était d'être autonome en sachant qu'à Avignon, c'est la guerre, au niveau des projets, au niveau de la place, donc on s'est dit qu'il faut faire un truc complexe, mais quand même simple, où on peut monter ça vite, et surtout on a besoin d'un minimum de technique du lieu, à part un peu d'électricité, quoi. Donc voilà le délire.
Et un de vos confrères que j'ai interviewé l'autre jour me racontait qu'ils ont eu un problème avec un matériel et un de leurs techniciens a pris le TGV, est monté à Lille le faire réparer et est redescendu dans la journée pour que le matériel soit prêt pour le spectacle du soir. Donc vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à être assez soigneux à ce sujet-là. Et non, maintenant, je comprends mieux votre concept de création collective quand je vois que vous êtes polyvalent et complémentaire. Donc un qui fouine sur Internet pour trouver des éléments, un qui bricole, une qui coordonne, et je ne parle même pas de vos 3 autres comparses. Par conséquent, oui, oui, donc une création collective au sein de la compagnie Kipik sur ce thème un petit peu difficile, un petit peu délicat à aborder, loin s'en faut. Et si la peine de mort était abolie dans nos deux pays respectifs et plus loin encore, eh bien la mort, elle, existe encore beaucoup, notamment dans le milieu carcéral. Je pense à tous les suicides qui arrivent en prison. Alors je sais pas comment est l'état d'en prison en Suisse, mais c'est vrai qu'en France, c'est un problème qui existe bel et bien. Alors qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, toujours est-il qu'on se fait régulièrement épingler par les institutions internationales, dont certaines sont en Suisse, vous l'avez rappelé. Et du coup, c'est vrai que la peine de mort n'existe plus en droit, mais pourtant, un juge qui condamne un couillon à une peine de prison dans laquelle il sait qu'il va côtoyer des gens qui sont extrêmement durs, il sait de fait qu'il le condamne à mort, je parle pour la justice française, même si aucun magistrat ne l'admettra jamais. Et par conséquent, est-ce que c'est des éléments de réflexion, puisque c'est un thème qui vous intéresse et sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et peut-être encore à l'avenir, est-ce que c'est des éléments de réflexion qui vous amèneront peut-être à un prochain travail ?
Un prochain travail, alors, peut-être. Non mais c'est vrai qu'en fait...
J'ouvre une porte peut-être pour vous, là, je sais pas.
Tout à fait. Non mais alors c'est vrai qu'on avait pensé d'ouvrir justement... notre spectacle, le faire beaucoup plus long, parce qu'on a pensé aux prisonniers, on a pensé aussi aux sorcières, parce qu'elles étaient aussi pendues. On a
les procès en sorcellerie, enfants, oui, qui avaient eu au Moyen-Âge, enfin, voilà, à la Renaissance, pardon.
Sorcellerie, tout ça. Mm-hmm. On a pensé aussi aux prisons pour mineurs, parce que Victor Hugo, il en parle aussi, il était en visite. Mais le temps fait que pour Avignon, un spectacle doit tenir en règle générale entre, je dirais, 45 jusqu'à 1 heure et quart, selon les théâtres où on va. Donc, bah, on a fait des choix et on a resserré en fait la thématique. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'en parle pas en fait. C'est pas parce qu'on ne veut pas en parler, mais c'est parce qu'on était un peu obligé. Puis on a ciblé en fait pour quand même avoir une ligne de conduite par rapport au projet en fait qu'on avait pour que tout se lie en fait.
Mais c'est pas un mal de céder à des contraintes si c'est pour faire quelque chose de plus cohérent de fait, et on ne saurait vous en vouloir pour ça. Voilà, voilà. Bah, et merci Louis, merci Cyril d'être venu nous parler de ce projet, La mort dans tous ses états avec un C. C'est au théâtre du Verbe Fou, rue des Infirmières, jusqu'au 25 juillet, jusqu'à la fin de la semaine à 19h45. Donc vous venez de Suisse, vous abordez ce sujet à l'aune de votre expérience au sein des deux pays et votre point de vue du coup à quelque chose de neuf et sur notre littérature et sur la situation qui est préoccupante au niveau international. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir invités. Merci à Radio Osmose.
Puis je vous prie de rester vivant, quels que soient les sujets que vous abordez, histoire de venir nous parler d'autre chose dans un prochain festival off.
Pourquoi pas. Merci beaucoup.